Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet assez costaud, le traité de l'Élysée.
Ah oui, un monument de l'histoire européenne.
Carrément.
Oh.
Signé en 1963 entre la France et l'Allemagne, censé sceller la réconciliation après la Seconde Guerre mondiale.
Un moment clé, c'est sûr.
On a pas mal de sources pour décortiquer tout ça. Hein. Des archives, analyses d'experts, on a même déniché quelques anecdotes plutôt croustillantes.
Ah, j'ai hâte d'entendre ça.
Mais attention, l'Élysée, c'est pas juste une belle histoire d'amitié retrouvée. On va voir que dès le départ, ça a été un peu tendu.
Des visions divergentes.
Exactement. Et puis, il y a eu ce fameux préambule, une sorte de texte ajouté au dernier moment, qui a failli tout faire capoter.
Ah oui, le préambule, un sujet sensible.
On va essayer de comprendre pourquoi ce traité, aussi ambitieux soit-il, est resté si controversé, prêt à plonger dans les coulisses de l'Élysée.
Absolument, c'est un sujet passionnant. Ce qui est fascinant avec ce traité, c'est qu'il incarne toutes les contradictions de l'Europe de l'époque.
C'est vrai, on a souvent cette image d'un couple franco-allemand moteur de l'Europe. Mais ce couple, comme tous les couples, il a aussi ses secrets, ses disputes et parfois même des grosses engueulades.
Exactement. Et le traité de l'Élysée, il est au cœur de cette relation complexe.
C'est ça. D'un côté, on a ce symbole fort de réconciliation, avec des initiatives concrètes, hein, comme l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a permis à des millions de jeunes de se rencontrer.
Une belle réussite.
Mais de l'autre, c'est un accord qui porte en lui les germes de divergences profondes. Sur la place de l'Europe dans le monde, sur l'OTAN, sur le rôle des États-Unis.
Les sujets qui fâchent.
Ah oui. Et c'est là que notre fameux préambule entre en jeu. Ajouté à la dernière minute par le Bundestag allemand, il a provoqué la fureur de De Gaulle.
De Gaulle, qui rêvait d'une Europe souveraine, indépendante des deux blocs.
Exactement. Imaginez un peu la scène. De Gaulle, ardent défenseur d'une Europe puissance, qui négocie ce traité avec Adenauer pour affirmer l'axe franco-allemand face aux superpuissances.
Oui, oui.
Et là, bam, le Bundestag ajoute un préambule qui réaffirme l'ancrage de l'Allemagne dans le bloc occidental et l'importance de l'OTAN.
La douche froide.
Un véritable camouflet pour De Gaulle. Du coup, est-ce que ce traité a vraiment atteint ses objectifs? A-t-il permis de créer cette Europe puissance dont De Gaulle rêvait?
Alors c'est là que les choses se compliquent. D'un point de vue politique, l'ambition gaulliste d'une Europe totalement indépendante, ça n'a pas vraiment fonctionné. Le préambule a rappelé les limites de cette vision.
On imagine la frustration de De Gaulle.
Oui, et puis l'Allemagne, encore marquée par la guerre, se sentait plus en sécurité, disons, sous le parapluie américain.
Donc une victoire pour Adenauer et une déception pour De Gaulle, c'est ça?
Oui et non. C'est vrai que le traité a acté le lien fort de l'Allemagne à l'OTAN et aux États-Unis, ce qui a profondément frustré De Gaulle. Mais il faut aussi reconnaître que l'Élysée a permis de créer un vrai dialogue politique structuré entre la France et l'Allemagne.
C'est vrai. On a mis en place des consultations régulières au plus haut niveau, des échanges entre ministres, des coopérations dans des domaines clés comme la défense. Pas mal quand même.
Oui, des avancées concrètes, malgré les divergences politiques.
Mais concrètement, qu'est-ce que ce traité a changé pour les Français et les Allemands? Est-ce qu'il a eu un impact réel sur leur vie quotidienne?
Oui, absolument. Un des aspects les plus importants du traité de l'Élysée, c'est son impact sur la société civile. Je pense notamment à la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ.
Ah oui, l'OFAJ. On a lu que cette organisation a joué un rôle clé dans le rapprochement entre les jeunes des deux pays.
Tout à fait. L'OFAJ, c'est un peu l'enfant chéri du traité d'Élysée. Depuis sa création en 1963, des millions de jeunes français et allemands ont participé à des échanges scolaires, des séjours linguistiques, des projets culturels.
Imaginez l'impact. Apprendre la langue du voisin, découvrir sa culture, se faire des amis de l'autre côté du Rhin.
Une réussite indéniable du traité, c'est clair.
C'est sûr que ça a dû contribuer à changer les mentalités, à dépasser les clichés et les préjugés. Mais certains critiques disent que cette coopération franco-allemande, elle reste souvent superficielle, limitée aux élites et aux institutions. Qu'en pensez-vous?
C'est une critique qu'on entend souvent. Et il est vrai que le couple franco-allemand a parfois du mal à se connecter à la réalité des citoyens.
Oui, on peut le comprendre.
Il y a des disparités économiques importantes entre les deux pays, des différences culturelles qui persistent, et parfois même une certaine méfiance qui ressurgit. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte, hein. On est en pleine guerre froide, le rideau de fer divise l'Europe, la menace soviétique plane.
Ah oui, c'est vrai. Pour De Gaulle, l'enjeu c'était de créer une Europe forte, capable de tenir tête aux deux superpuissances.
Exactement. Une troisième voie indépendante de Washington et de Moscou.
Le rêve gaulliste.
Oui, sauf que la vision de De Gaulle se heurte à la réalité géopolitique de l'Allemagne. Adenauer, même s'il est un ferve partisan de la réconciliation franco-allemande, eh bien, il ne peut pas ignorer les craintes de ses concitoyens.
La Main de West, encore traumatisée par la guerre, se sent vulnérable face à l'URSS.
Tout à fait.
Et du coup, elle cherche la protection des États-Unis et de l'OTAN. C'est pour ça que le Bundestag a tenu à ajouter ce fameux préambule au traité.
Absolument. Pour réaffirmer l'engagement de l'Allemagne envers le bloc occidental.
Un rappel à l'ordre pour de Gaulle.
On peut le dire comme ça. Ce préambule, c'est un peu un coup de massue pour de Gaulle. Il montre que l'Allemagne, même si elle veut se rapprocher de la France, ne peut pas se permettre de tourner le dos à ses alliés américains.
On imagine la réaction de de Gaulle.
Ah ça, il l'a très mal vécu. On dit qu'il a qualifié ce préambule d'horrible chapeau. Un vrai coup de poignard dans le dos de son ambition européenne.
Difficile à avaler. Mais au-delà de cet épisode diplomatique un peu houleux, est-ce que le traité de l'Élysée a quand même permis de mettre en place une coopération concrète entre la France et l'Allemagne?
Oui, oui, absolument. Le traité a institutionnalisé des consultations régulières entre les deux gouvernements. On a mis en place des mécanismes de coordination au niveau des ministères, des échanges d'informations, des prises de décisions communes sur certains dossiers.
Concrètement, ça a donné quoi?
Eh bien, par exemple, on a créé une instance de coopération militaire franco-allemande.
Ah, la défense.
Exactement. Bon, elle est restée assez limitée au début, mais c'était un premier pas. On a aussi vu des rapprochements dans l'industrie de l'armement, avec des projets de développement communs.
Donc on peut dire que l'Élysée a quand même permis de poser les bases d'une défense européenne commune. Même si ça a pris du temps.
Oui, c'est ça. L'idée d'une défense européenne, elle était déjà présente dans l'esprit de de Gaulle, mais le contexte de la guerre froide et la dépendance de l'Allemagne envers l'OTAN rendaient sa réalisation difficile. Le traité de l'Élysée a permis de lancer une dynamique, de créer un cadre de réflexion et de coopération qui a porté ses fruits plus tard.
Et sur le plan économique, est-ce que le traité a eu des conséquences concrètes?
Ah oui, bien sûr. L'Élysée, il s'inscrit dans un contexte de boom économique en Europe. La France et l'Allemagne sont en pleine croissance, elles ont besoin de débouchés pour leurs industries, elles veulent renforcer leurs échanges commerciaux. Le traité facilite cette coopération économique.
En clair.
En clair, on supprime des barrières douanières, on facilite les investissements entre les deux pays, on développe des projets industriels communs.
On peut penser à Airbus, par exemple.
Exactement. Airbus, c'est un géant européen de l'aéronautique, né de la coopération franco-allemande. Un bel exemple de réussite industrielle.
C'est clair. Mais certains économistes critiquent le fait que l'Allemagne a plus profité de cette coopération économique que la France. Vous en pensez quoi?
C'est un débat complexe. Il est vrai que l'Allemagne, avec sa puissance industrielle, a pu tirer un grand bénéfice du marché français. Mais la France a aussi profité de l'accès au marché allemand et des technologies allemandes. Il y a eu des gagnants et des perdants de part et d'autres, c'est inévitable.
Donc un bilan économique contrasté, avec des réussites, mais aussi des frustrations.
C'est ça. On retrouve un peu cette ambivalence qui caractérise le traité de l'Élysée, non?
Oui, c'est vrai. Des ambitions parfois contradictoires, des rapprochements sincères, mais aussi des intérêts divergents.
C'est ce qui le rend si passionnant à analyser, même 60 ans après sa signature.
Exactement. Et c'est ce qu'on va continuer à faire dans la suite de notre Deep Dive. On va explorer les critiques, les débats, les perspectives qui entourent le traité d'Élysée pour comprendre sa portée réelle et ses limites.
Alors, on l'a vu, le traité de l'Élysée, c'est un héritage complexe, avec des succès indéniables, mais aussi des limites, des frustrations. La question qui se pose aujourd'hui, c'est, est-ce que ce couple franco-allemand est encore capable de porter l'Europe, dans un monde qui change à toute vitesse?
C'est la grande question. Le monde de 2024 est bien différent de celui de 1963. On a de nouveaux défis, la crise climatique, les tensions géopolitiques, la montée des populismes. Est-ce que le couple franco-allemand, tel qu'il a été conçu par le traité de l'Élysée, est encore pertinent pour répondre à ces défis?
C'est un vrai défi, oui, pour l'Europe et pour le couple franco-allemand. D'un côté, on voit bien que la coopération entre la France et l'Allemagne reste essentielle.
C'est sûr.
Ces deux pays ont un poids économique et politique considérable. Ils partagent des valeurs communes, ils ont une histoire qui les lie. Sans une entente franco-allemande forte, l'Europe risque de patiner, de se diviser, de perdre de son influence sur la scène internationale.
Ah, c'est clair. Mais de l'autre côté, on a l'impression que ce couple a du mal à se renouveler, à s'adapter aux nouvelles réalités. On voit des divergences sur des sujets clés. La politique énergétique, la défense européenne, la relation avec la Russie.
Ah oui?
Parfois, on a même l'impression que Paris et Berlin se regardent en chien de faïence.
C'est vrai qu'il y a des tensions, des divergences, des moments de froid. L'Allemagne est parfois perçue comme trop hésitante, trop prudente, trop attachée à ses intérêts nationaux. La France, elle, peut paraître impatiente, trop volontariste, trop encline à imposer ses vues. C'est le risque de tous les couples, hein. la routine, les malentendus, les frustrations accumulées.
D'accord, donc le diagnostic est un peu mitigé, mais du coup, on fait quoi? Comment on relance la machine? Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité de l'Élysée pour le 26e siècle?
Je ne pense pas qu'un nouveau traité soit la solution miracle. L'esprit de l'Élysée est toujours valable. La recherche d'une entente franco-allemande au service de l'Europe. Ce qui doit changer, c'est la méthode, l'approche.
Il faut dépasser les déclarations d'intention, les sommets diplomatiques qui accouchent de communiqués creux. Il faut réinventer le dialogue franco-allemand, le rendre plus concret, plus efficace, plus proche des préoccupations des citoyens.
Concrètement, ça veut dire quoi? Donnez-nous des exemples.
Il faut multiplier les projets concrets de coopération dans des domaines qui touchent la vie quotidienne des Français et des Allemands. La transition écologique, la recherche scientifique, la formation professionnelle, la culture, le sport.
Oui, oui.
Il faut donner la parole aux jeunes, aux entrepreneurs, aux acteurs de la société civile. Créer des espaces de débat et d'échanges transfrontaliers.
Sortir des cercles diplomatiques et politiques. Aller sur le terrain. Impliquer les citoyens dans la construction européenne. C'est ça, l'esprit de l'Élysée pour le 21e siècle.
Exactement. Le traité de l'Élysée nous rappelle que l'Europe, elle se construit pas seulement par les institutions, les traités, les règlements. Elle se construit aussi par les échanges humains, les rencontres, les coopérations concrètes entre les peuples. C'est ça le véritable héritage de l'Élysée. Et c'est ça qu'il faut nourrir, entretenir, faire vivre pour les générations futures.
C'est une belle conclusion. Le traité d'Élysée, c'est pas juste un document historique, c'est un appel à l'action. Un défi permanent pour construire une Europe plus unie, plus solidaire, plus proche de ses citoyens. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'Élysée. On espère que vous avez appris des choses et que vous allez continuer à réfléchir à ces enjeux cruciaux pour l'avenir de l'Europe.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.